la papa. Et Cristobal laisse dans ce service de cristal. Tiens, papa n'est pas seul, qui donc qui l'amène? Cubu, licou, pou, i-o, i-a. C'est tonton Archibald, mémé Philomène. Bijou, caillou, chou, genou, hibou. Je vais en prendre pour mon grade. Fini rigolade, la la, quelle salade. Et des potes, visez papa, visez-moi ça. Comme il faut que je trotte avec Diana, hola, hola. Tiens, v'la mémé, grimpez sur le dessus de la cheminée. Et des potes, hola, hola, voyez-moi ça. Comme elle gigote, hola, hola, on croirait pas qu'elle est vétuste. Tiens, la v'la qui s'élance dans le lustre. Ça, c'est du vrai trapèze, ça, c'est du boulot. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Elle a l'air bien à l'aise, j'y tire mon chapeau. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Oh, tonton Archibald, tu jongles pas mal avec le cristal. Et dites les potes, oui les papas, oui les Diana, oui les Charlotte, oui les Didi, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas.
Et dis Bobby, si ton papa que tu cherches, ben je vais te le rendre.
Bah oui, on est prêt. C'est la causerie, c'est 22h, c'est dimanche. C'est Radio Canu, c'est le 102.2. C'est sur radiocanu.org parce qu'on a réparé le streaming et que maintenant il marche. Donc c'est tout, tout très bien. Ça va les gens ?
Bah ça va bien.
Ouais.
Bonsoir.
Ouais.
Bonsoir.
Qui c'est qu'on a autour de la table ? Alors on a Jean-Yves à la technique.
Ouais.
On a Emma qui est là.
Ouais.
Louli qui viendra un jour peut-être, mais qui n'est pas là.
Mais qui normalement nous écoute de oui. Là où il est.
Mystère.
Mystère et boule de gomme.
Surtout de gomme.
Et, et puis on est en compagnie aussi de Vanessa et de Clara. Voilà. Bonsoir Vanessa, bonsoir Clara.
Bonsoir.
Oh,
c'est voilà. Bien, elles ont appris à dire oui. Bonjour. Alors bonsoir. Moi j'ai un casque et un con stéréo, un coup un mono, ça va être très drôle ce soir. Attends, hop, voilà. Ça va ? Vous avez là tous endormis, mais
non,
c'est
pas
c'est
du tout, mais c'est...
On attend.
Mais oui, on attend, mais on va pas l'attendre, en fait. On peut peut-être rappeler...
Ah oui, les mails, lacauseriecanu@gmail.com,
par exemple. Il faut savoir, soit t'as un problème avec ton casque, tu règles ton casque.
Je règle mon casque voilà. Et je donne le mail.
Emma, tu peux peut-être nous rappeler le blog ou pas, en fait ?
Bah bien sûr.
Bah ouais, vas-y.
Allez, c'est blogs.radiocanu.org/lacauserie.
C'est quoi, slash ? Non, ah, bon, on va pas la faire à chaque
pitié.
Fois. Bon, eh ben, c'est moi qui continue, c'est ça ? Il paraît.
Je crois que oui.
Tu crois
que
oui ? C'est bien.
Tu nous parles, je crois, tu veux nous présenter un bouquin.
Bah
un
ouais.
Livre.
Un bouquin et un genre. Oh, c'est la théorie du genre, tout ça, ça m'a
non,
donné envie.
Non.
Donc, non, mais j'avais envie de vous parler d'un bouquin et qui n'a rien à voir avec, avec la politique et quoique. Et voilà, je vais vous dire pourquoi je dis ça. Et c'est un bouquin de David Gemmell. Alors Gemmell ne s'écrit pas comme Gmail, hein. Je l'ai déjà fait, je la refais. Et ça s'appelle Légende, l'ultime combat. C'est aux éditions Milady. Et quand j'ai dit tout ça, vous me dites, bon ben tu peux y aller, on n'en a rien à foutre de ton bouquin. Mais je vais quand même le présenter. C'est donc un livre de fantasy. Alors là, tout le monde commence à dire, ça y est, c'est devenu une émission de geek, il y en a marre, il va nous parler de trucs qui nous font chier. Bah ouais, je vais un peu vous parler d'un genre qu'on méprise beaucoup en France et ça me gaffe qu'on le méprise. Je vais d'abord vous présenter le livre. Légende, c'est l'histoire de Druse. Druse qui est donc une légende, c'est au sens premier du terme. Et qui est donc celui qu'on attend sur tous les champs de bataille dans un monde totalement inventé, hein, évidemment. Et s'il n'y a pas de Druse sur un champ de bataille, la bataille est perdue. Donc vous imaginez un petit peu le poids sur ses épaules.
Grâce.
Sauf que Druse, qui est au départ un simple bûcheron et qui a une hache qui s'appelle Smaga, et ben, il est un peu emmerdé parce que Druse, il a un petit peu 90 balais. Il est fatigué d'être une légende et il en a un peu marre qu'à chaque fois qu'une guerre se déclenche, ben on l'appelle. Donc le livre en fait va tourner autour de cette notion-là, la notion de qu'est-ce que c'est que d'être un héros, qu'est-ce que c'est que d'être une légende et qu'est-ce que c'est que d'être indispensable, soi-disant, à une victoire. Et c'est super bien fait parce que tout le long du bouquin, on va voir donc Druse qui a perdu sa femme, attend la mort, et comme il dit, cette chienne ne vient pas le chercher. Et il se trouve en haut d'une petite colline dans une maison où il ne chauffe pas parce que comme ça il pourrait mourir l'hiver, où l'été il se couvre sous des couvertures parce que comme ça il pourrait mourir de chaud. Vous voyez, il en a vraiment marre. Il veut qu'une seule chose, c'est en finir. Mais la mort vient pas, donc il continue son petit bonhomme de chemin. Il continue à couper du bois, il est bûcheron. Quand même, avant d'être guerrier. Et il a sa fameuse hache qui est Smaga. Et Smaga, en fait, c'est une hache esprit. C'est-à-dire, c'est une hache qui contient un esprit qui est l'esprit de la vengeance et de la guerre. Donc, dès qu'il prend sa hache, ça l'agace. C'est-à-dire qu'il s'énerve, il a envie d'aller buter des méchants. Et dès qu'il la pose, il redevient un petit peu lui-même. Et ces derniers temps, il a plutôt envie de la poser que de la reprendre, quoi. Parce qu'il se rend compte que sa vie n'a été qu'un enchaînement de guerres, de batailles et de sang, et que il a même pas eu le temps de profiter de la femme qu'il aimait, qui est morte. Il a pas eu le temps de profiter de ses enfants, qui sont tous morts. Et du coup, c'est un petit peu triste pour lui de voir que d'être une légende, finalement, c'est un peu casse-couille. Excusez-moi l'expression, mais c'est un petit peu gâcher sa vie. Et ce qui est intéressant dans le bouquin de David Gemmell, c'est que pour une fois, on n'a pas un héros au sens premier du terme, c'est-à-dire le héros qui est juste, pur, qui lui ne veut jamais mourir, qui va aller dans toutes les batailles parce que c'est normal d'aller dans les batailles. On a plutôt un héros qui est un peu un anti-héros et qui est un peu fatigué d'être celui qu'on attend tout le temps. Et en fait, David Gemmell, dans ce bouquin, il cherche à faire passer quoi ? Il cherche à faire passer l'idée que les héros ne servent à rien, que les héros ne nous servent que à s'illusionner sur l'issue d'une bataille. En fait, David Gemmell, dans son livre, il essaie juste de nous expliquer une chose, c'est que soit une bataille est juste, soit elle est injuste. Soit vous êtes du côté des gens qui veulent faire le bien, soit vous êtes du côté de ceux qui veulent faire le mal, mais que vous ayez un héros ou pas, c'est ce pourquoi vous faites la bataille qui compte. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit ?
Oui, voilà. J'ai envie de dire que c'est un peu binaire quand même comme vision.
Ouais, alors pas tout à fait. J'aime bien que tu me dises ça, parce que c'est souvent ce qu'on reproche à la fantasy. On dit oui, la fantasy, il y a toujours les gentils des côtés, les méchants de l'autre. Et en fait, dans Légende, on découvre un monde un peu plus complexe que ça, où justement, dans le camp des gentils, je mets des guillemets, il y a des gens qui sont pas très très recommandables et qui sont prêts à tout pour gagner une bataille, y compris à sacrifier des enfants, par exemple. C'est pas dans ce livre-là, c'est dans un autre livre de Gemmell, mais c'est dans la même catégorie. Et dans le camp des méchants, on a des gens qui sont là parce qu'ils sont nés dans la mauvaise famille. C'est-à-dire ils sont les héritiers d'une famille de tyrans. Et puis, ils sont obligés d'être tyrans parce qu'ils sont le fils du tyran. Donc, on attend d'eux qu'ils reprennent le rôle de papa, quoi.
La reproduction
sociale. Et eux, ils n'ont pas forcément envie d'être tyrans.
C'est des gentils tyrans, quoi.
Non, mais ils ont pas. Enfin, ils se retrouvent un peu pris dans un engrenage. Il y a aussi une caste qui est la caste des assassins. Et la caste des assassins, elle est censée être neutre. Mais en fait, dans le livre, on comprend assez vite que on n'est jamais neutre quand on doit éliminer des gens. Ce serait un petit peu l'équivalent de la DGSE en France, vous voyez. Si vous faites des parallèles avec le monde réel, c'est ça, la caste des assassins. C'est un peu ça, c'est ceux qui ont dit faut flinguer celui-là parce qu'il commence à nous déranger. Mais c'est ton boulot, donc te pose pas de questions politiques, quoi. Mais c'est intéressant en fait parce que Gemmell, justement, il construit un monde qui est extrêmement complexe et qui justement n'est pas binaire. Et même son héros n'est pas binaire parce que son héros, il est pas forcément très sympa. Il a quand même des moments où on a envie de lui dire t'es pas obligé de tuer tout le monde comme ça, ni d'être sadique, ni de sous prétexte que toi t'es du côté du bien, quoi. Voilà. Et donc c'est intéressant parce que c'est une vraie étude sur ce qu'est l'âge et ce qu'est le fait d'être une légende au travers du monde de la fantasy. Et là, je sais pas, vous avez donné envie de le lire, donc c'est Légende, hein, ou pas, parce que j'en connais un, la fantasy, ça viendra jamais.
Peut-être qu'un jour, quand j'aurai un imaginaire, peut-être que je m'y mettrai, hein, mais pour l'instant,
c'est pas possible.
C'est ça.
Mais ce qui est intéressant, ceci dit, je vais rebondir sur l'univers en question, c'est que moi, je trouve qu'en France, on a un mépris total de ce genre littéraire. Tout ce qui est, en fait, même la science-fiction en France est assez méprisée. La fantasy, la science-fiction, enfin tout ce qui fait appel en fait à de l'imaginaire, c'est tout classé dans littérature pour enfants ou adolescents. Alors, c'est assez fou parce que Légende, par exemple, le livre dont je vous parle, là, il est classé jeunesse, hein, quand vous allez à la... Enfin, je ne veux pas dire les noms de marques, mais à la FNAC ou autre, ou même chez Gilbert Joseph, je vais le dire quand même. Non, mais parce que c'était pour donner des... quand même voix. Et le pire, c'est qu'il est classé chez Enfance quand vous allez chez Leclerc. Donc, c'est assez fou. Oui. Alors que c'est un livre où, honnêtement, je le dis clairement, je ne le mettrais pas entre les mains d'un adolescent, enfin, avant 14-15 ans, quoi. Je veux dire, pré-ado, vous oubliez.
Ouais,
quoi.
Je veux dire, pour les enfants, il vaut mieux qu'ils lisent tous à poil.
Voilà. Voilà, non mais on est d'accord. Je veux dire, là on est quand même dans un livre qui parle très clairement et très crûment de guerre, de violence, de sang, de sexe, et qui très honnêtement est un livre adulte quoi, et qui n'a rien d'un livre pour enfants, ou disons pour à partir d'ado quoi. Ouais. Mais là où ça me gêne, c'est que ce mépris pour ce genre-là fait que on a une impression que c'est pas une vraie littérature, alors que c'est très très bien écrit, que les univers de fantasy généralement demandent des années aux auteurs à être mis en place, parce que c'est des mondes complet qu'on crée de A à Z. Ouais. C'est des mondes construits avec leur politique interne, avec leurs espèces internes, parce qu'il n'y a pas que des humains dans la fantasy, avec les interactions entre notamment royaumes ou carrément des zones libres. Il y a des livres de fantasy anarchistes, ça existe, je vous le dis, où il existe des zones libres, des zones où les gens n'ont pas de roi, ni de reine, ni de quoi que ce soit. Donc renseignez-vous, il n'y a pas que des rois et des reines dans la fantasy. Et voilà. Et ça m'énerve qu'en France, on ait ce mépris pour ce genre-là. D'autant plus quand on voit le succès de films comme Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit, qui ne sont quand même pas issus de la grande littérature française de Marguerite Duras, c'est de la fantasy pure. Quand on voit des séries comme Game of Thrones, ce qu'on dit, je regarde notre anglophone, c'est ça.
Ouais.
Voilà, autour, je sais pas comment ça se dit, mais qui fonctionne extrêmement bien et qui repose en fait sur des univers qui n'existent pas. On est très clair. Enfin, on n'a pas encore vu de dragon débarquer. Enfin,
ça dépend ce que vous prenez. Hein.
Et tout ça en fait que ce mépris en fait pour ce genre donne l'impression que les gens qui lisent ça sont tous des neuneux et des débiles
et des geeks
voire des nerds, ce qui est encore pire. Et en fait je trouve que c'est hyper péjoratif, alors que c'est des genres qui ont énormément à offrir et sur lesquels qui peut offrir la possibilité d'arriver vers l'imagination, notamment pour les plus jeunes. Donc voilà.
Mais ce genre de classement là, enfin, la littérature comme ça, c'est qu'en France ou elle est classée jeunesse ?
Ouais, c'est qu'en France.
Ouais, donc c'est encore une fois ce grand pays de la France, de la littérature qui se gargarise de ces trucs.
Par exemple, la plus grosse vente aujourd'hui en France, c'est Game of Thrones, je vais le dire comme ça, en bouquin. Donc c'est des bouquins quand même qui font entre 800 et 1500 pages, donc c'est pas des trucs qu'on lit comme ça, il y a 11 tomes. Hein, donc
oui, mais je veux dire, c'est la gargarisation de la France et de sa littérature soi-disant.
Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est la plus grande vente, mais on n'en parle pas. Ouais, c'est-à-dire qu'on refuse de reconnaître que c'est vendu, que ça existe, que les gens le lisent. Et ça, c'est réellement un vrai problème. Moi, je vois que l'autre jour, je regardais le classement des livres, je sais plus sur quel, ça devait être dans Le Monde, enfin, sur le site du Monde. Et en fait, dans le classement des livres, en meilleure vente, vous avez pas les livres de fantasy. Ils sont dans les livres pour enfants. C'est quand même génial, quoi. C'est comme s'il y avait que des enfants qui lisaient de la fantasy. Tout ça pour pas dire que les auteurs français sont moins lus que finalement le gars qui a écrit un bouquin de fantasy. Moi, ça me dérange vraiment. Alors que dans d'autres pays, on reconnaît que, c'est la plus grande lecture et il y a des grands auteurs qui se sont mis à la fantasy parce que justement, pour s'essayer au genre, parce que c'est un genre à part entière. Et que, voilà. Moi, je voulais juste défendre ça et puis dire qu'à un moment donné, je trouve qu'on est un pays où on tue l'imagination, parce qu'on aime bien les grandes lettres, mais souvent on met rien derrière les grandes lettres. Alors moi, j'ai rien contre les grandes lettres, j'aime beaucoup des grands auteurs aussi, mais si on pouvait avoir un peu plus d'imagination dans nos livres, ce serait vachement classe. Ça éviterait que Jean-François Copé ait peur de tout sa poêle, par exemple.
Par exemple.
Non, mais c'est con. Mais je me dis, c'est ça, c'est qu'on a peur de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on dit, oh là là, mais il faut être hyper pragmatique, hyper froid, hyper... Et en fait, finalement, l'imaginaire, ça aide à se construire aussi. Donc, voilà. Et là, je peux dire, on peut lancer la musique, parce que normalement, c'était ce que t'étais censé faire.
Okay. On y va. C'est parti.
Yeah.
Et ben voilà, c'était bien. Hein ouais. Ouais, ça s'appelle Corvus Corax, c'est Venus Vina Musica. Pour ceux qui connaissent le latin, ça a dû beaucoup vous plaire. Voilà, je vous laisserai chercher la traduction des paroles. Et on continue, c'est toujours la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org. Il est toujours à peu près 22h et des brouettes, et des grosses
de
brouettes. On va prouver qu'on est en direct, il est 22h, 23 minutes et 13 secondes. Et du coup, je vais passer la parole à ma chère compatriote de causerie. Enfin, allons-y, soyons un peu patriotiques.
Ouais.
Vive la causerie, le pays où tout est permis. Enfin bref, et donc Emma, tu voulais nous parler de quoi ce soir?
Alors moi, ce soir, je voulais parler du harcèlement à l'école. En ce moment, on nous fait, allez, je vais être cash et je vais être vulgaire, désolée, belle maman.
Pardon.
Mais on nous fait chier entre la théorie du genre et à nous dire, oui, mais de toute façon, si votre enfant a deux papas, deux mamans, il sera moqué à l'école. Et on oublie en fait que les enfants, de toute façon, en général, sont moqués pour diverses raisons. Et pour rappel, le harcèlement à l'école, alors surtout collège, lycée, ça peut aller du harcèlement moral aux injures, aux raquettes, ou le simple fait de rabaisser quelqu'un, ça peut être aussi du harcèlement. J'ai appris qu'il y avait un plan anti-harcèlement qui a été mis en place par le fameux ministère de l'Éducation nationale. Alors c'est bien beau, hein, dans les faits, comme d'habitude, le plan, normalement, il contient un référent dans chaque académie. Donc un référent qui serait là en fait en cas justement de harcèlement, de raquette, et qui serait là en fait pour faire le lien entre l'élève, la CPE et tout ça. Des outils à l'usage des profs, alors on leur a fait une belle petite boîte à outils, hein, avec des vidéos, des plaquettes et tout ça, et ils ne les ont jamais eues. Et il y aurait une formation pour les enseignants, et apparemment ils ne l'ont toujours pas reçue à ce jour. Donc voilà, enfin, encore une fois, dans l'écrit c'est bien joli, on prévoit un beau plan et tout ça pour essayer de mettre fin au harcèlement dans les écoles, mais voilà, comme on voit en réalité il n'y a rien qui est sorti à ce jour, et au final on se retrouve toujours sans trop de réponses, et c'est surtout qu'en fait moi je me dis, à la place des, enfin, pour les jeunes, ils sont un peu en perte de repère, parce que au final, quand ils se font harceler, alors que ce soit du racketage, des injures ou n'importe quoi, ils ne savent pas trop vers qui se tourner. Est-ce qu'on va voir plutôt l'infirmière, la CPE? Est-ce qu'on va voir le psy de l'école s'il y en a un? Est-ce qu'on va directement voir son enseignant et tout ça? Et donc voilà. Et puis l'autre souci, moi que j'ai l'impression qu'il y a, c'est qu'on a du mal avec la définition du harcèlement. Et dans beaucoup d'écoles, en fait, on repère surtout les insultes. Alors, en premier, hein, les insultes racistes, parce que bien sûr, qu'on vient voir pour des insultes sexistes ou homophobes, tout d'un coup, faut prouver par A plus B que ça a été bien une insulte homophobe, hein, parce que voilà, se faire insulter de sale PD ou de sale Gwyn, apparemment, ça suffit pas à démontrer que c'est une injure homophobe. Faudra qu'on m'explique un jour.
Il y a eu un cas il y a pas très longtemps, ouais, en plus, ouais. De deux élèves, je crois, ouais. deux jeunes filles
ouais.
Qui ont été parce que lesbiennes, malmenées, à qui on a dit non, il fallait, c'était juste
une simple bagarre,
une petite baston.
Ouais, oui. Alors, attends, je vais juste avant que tu continues. En fait, ce que je me rends compte, c'est qu'ils sont plus réactifs en fait à l'Éducation nationale pour virer des bouquins. Que pour former des profs, quoi.
C'est
non, mais je remets la dose, mais parce qu'il y en a franchement un peu plein le...
Plein, quoi.
Non,
plein de... Voilà,
non. Voilà, je m'arrête.
Non, mais c'est ça, en fait. C'est que, moi, je sais que j'ai des amis enseignants.
Oula.
Je l'ai dit. Mais
ça se passe bien.
Ça va. Mais je les fréquente pas quotidiennement, hein. Ça va.
J'en fais attention. Hein.
Ouais, non, mais j'ai ma dose mensuelle, ça me suffit. Non, je leur fais des bisous en plus. Mais en fait, ils attendent cette formation parce que des moments, ils n'ont pas forcément les gestes
outils,
et tout ça, ouais, les outils.
Ah ouais.
Et ils n'ont rien. Et puis, c'est pareil, eux, ils ne savent pas forcément à qui s'adresser. Et de toute façon, ils sont témoins de violences chaque jour. Et donc voilà, pour revenir sur ce que je disais, c'est vrai que en plus le souci du harcèlement en France, c'est que c'est d'abord les insultes. Alors on punit aussi le racket, le vol et tout ça, mais le harcèlement en fait de type quotidien, donc par exemple, le rabaisser la personne au quotidien,
l'humiliation,
l'humiliation, ouais. qu'un groupe, par exemple, vient prendre à partie un élève et lui mettre une pression comme pas possible, ça tout de suite, c'est moins expliqué. Et surtout, il y a une nouvelle forme de harcèlement, si on peut dire ça, c'est tout le harcèlement sur les réseaux sociaux et Internet. Et il y a des histoires pas possibles, quoi, des gens qui... des élèves collège-lycée, encore une fois, qui arrivent un beau matin et on leur a pourri leur existence sur Facebook, sur n'importe quoi, ou sur Internet en postant des photos d'eux, pas trop à leurs avantages et tout ça. Donc voilà, et... moi c'est une situation qui me choque en France parce que voilà, comme on le dit, le gouvernement a l'air bien réac sur certains trucs et il y a d'autres, il y a des faits, c'est chaque jour, je pense que tout le monde a dans son entourage un collégien, un lycéen ou même un enfant en fait qui a à un moment rencontré ce type de harcèlement. Alors pour certains c'était passager, pour d'autres ça a duré des années et des années, et voilà, on se retrouve à pas trop savoir quoi dire. Moi déjà j'aimerais encourager, alors si vous êtes parents et que vous nous écoutez, à juste dialoguer. Je pense qu'on le sent quand il y a quelque chose qui va pas. Et il y a un autre truc, c'est la phobie scolaire. Alors après il y a de la phobie scolaire, quand même je tiens à le rappeler, c'est pas forcément dû à du harcèlement et tout ça, il y a de la phobie scolaire qui est due à autre chose. Mais je pense qu'il faut être vigilant là-dessus. Et voilà, quand quelqu'un, au bout d'un moment, appelle systématiquement en disant « J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, est-ce que tu peux venir me chercher pour pas déjeuner à la cantine ou au self avec ses amis ?» C'est peut-être qu'il y a un souci. Voilà. Et alors, comme vous le savez déjà, j'ai passé un an au Canada. Alors attention, je ne suis pas tombée en amour de ce pays, mais il y a des choses pas mal. Et c'est surtout en fait que là-bas, alors ça ne s'appelle pas le harcèlement, ils ont appelé ça l'intimidation.
Ces Canadiens ont toujours des mots magnifiques.
Ah, toujours, ils ont des mots et tout. Et alors là-bas, en fait, c'est un sujet qui est très pris au sérieux. Alors c'était à la suite de nombreux suicides, dont un qui a été une véritable source de débat. C'était le cas en fait de Marjorie Raymond qui est décédée le 28 novembre 2011 après s'être pendue dans un garage. Elle était victime d'intimidation physique et verbale. Et en fait, le gros souci, pourquoi ça a fait débat, c'est qu'elle s'en est plainte plusieurs fois à ses enseignants. Et ils n'avaient jamais le temps, ils n'ont pas trouvé de réponse. Et le pire, c'était « Ah mais écoute, tu dois faire face, de toute façon, c'est à toi de t'intégrer aux autres et pas l'inverse. » Et donc depuis en fait ce cas, il y a eu de nombreux soutiens et surtout il y a une véritable campagne et de sensibilisation et de prévention à toute forme d'intimidation. Et c'est surtout que là-bas l'intimidation, ça porte pas ce nom pour rien, c'est vraiment que ça prend en compte pas mal de choses. C'est vraiment le harcèlement moral, mais c'est comme je l'expliquais tout à l'heure, le simple fait en fait de dévaloriser quelqu'un. Et donc déjà, ça englobe plus de choses, et c'est-à-dire qu'on peut aller se référer à son prof, à l'équivalent du CPE là-bas. Je ne sais pas le mot pour ça. Je ne suis pas un dictionnaire franco-québécois, moi toute seule. Mais voilà, ça doit exister. Et je ne crois pas fortement à la loi, parce que c'est bien beau les lois, mais après il faut peut-être des applications, puis il faut d'autres formes aussi à réfléchir. En tout cas, il y a une loi qui existe là-bas, c'est le projet de loi 14, et en tout cas qui prend en compte tout ça, et surtout qui prend en compte aussi tout ce qui est harcèlement sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc ils sont très vigilants là-bas, et puis surtout ils ont mis à disposition pas mal d'outils un peu pédagogiques à l'usage des enseignants, de tout ce qui est aussi infirmière, scolaire, des parents et des élèves. Donc voilà, et moi j'ai fait un petit tour sur les boîtes à outils, c'est vrai que c'était pas mal bien expliqué, quoi. Donc voilà, en fait, moi c'est un peu ça qui me choque, c'est qu'aujourd'hui on est là à nous balancer qu'en gros, si on est deux mamans, si on est deux papas, notre enfant risquera en fait de se prendre des moqueries et tout ça. Mais malheureusement...
C'est déjà le cas, quoi.
Ouais, c'est déjà le cas pour d'autres choses, quoi. Donc, et puis, encore une fois, est-ce qu'il ne faudrait pas voir vraiment la véritable source du problème ? C'est-à-dire, les enfants, l'institution, quoi, collège-lycée, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Pourquoi il y a des groupes ? Les leaders, ça existe. Les leaders dans les groupes se ferment depuis la maternelle. Est-ce qu'on ne peut pas résoudre un peu le problème avant ? Au lieu de faire la sourde oreille, quoi.
Vas-y.
Ouais, non, mais moi je voulais juste te dire un truc. Il y a des écoles qui existent, qui ont d'autres méthodologies d'éducation. et d'autres liés, des lycées aussi qui existent avec d'autres formes d'éducation, dans lequel en fait les cas de harcèlement ou le cas de violence sont extrêmement réduits. Et en fait, c'est lié, à mon avis, à une première chose, c'est quand vous enlevez l'instinct de compétition aux gens, ils se tapent plus sur la gueule. Et que quand, tant qu'on fera l'école comme étant une source de faut être le meilleur, faut arriver en premier, faut battre ses petits camarades. Ça commence maintenant à la maternelle, on met des gommettes pour les enfants, pour leur dire,
étoiles, les bonnes images,
pour leur dire, voilà, ils sont bien, pas bien, machin. Enfin, c'est juste que le système tel qu'il est fait, c'est un système qui met en compétition les gens dès le plus jeune âge. Et ne vous attendez pas dans un système comme ça, bah, qu'il n'y ait pas de reproduction sociale avec ce qui se fait à l'extérieur. Dans les entreprises, il suffit qu'il y ait un salarié qui soit un petit peu différent des autres pour qu'il devienne la source de raillerie de tous les autres. Parce que plutôt que de se battre contre son patron, on préfère taper sur le plus faible. Hein. C'est un petit peu un réflexe à la con, mais c'est comme ça. Bah, à l'école, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on vous demande d'être le meilleur, bah, donc du coup, bah, vous allez taper sur celui qui est un peu plus faible, ou alors sur celui qui est très bon mais qui sait pas se défendre, parce que voilà, il est très bon mais il a pas les outils pour, il sait pas se battre, il a pas le charisme, il a pas, voilà, et du coup ben paf, il va falloir lui taper dessus parce qu'il faut l'empêcher d'être le meilleur. Et je crois que la première source de problème, elle est là, c'est-à-dire que tant que l'école sera une source de compétition, on sortira pas de ce genre de cas, quoi, en fait, enfin, ou du moins ils seront toujours aussi forts, quoi.
Oui, et après, bon, bah, j'espère qu'un jour on arrivera à virer ce système éducatif comme il est fait, etc. Mais en attendant, il y a aussi le fait que, il y a toujours aussi, on en revient toujours, enfin, à mon avis, un peu sur ce truc-là, c'est que la parole de l'enfant, on s'en tamponne, mais à mort, quoi. C'est-à-dire qu'on va lui dire, ah, mais c'est normal, c'est des jeux d'enfants. Non, c'est pas normal.
Ouais, puis il y a une échelle, donc... excuse-moi.
Il y a une échelle
de la gravité aussi, où voilà, comme je le disais, ben, le racket, à la rigueur, c'est pris au sérieux et tout ça, et encore, il faut vraiment qu'on vienne piquer quelque chose d'important, parce que piquer son goûter, à la rigueur, c'est pas trop important. Mais voilà, quand on vient parler de harcèlement moral et tout ça, par contre, tout de suite, ben, c'est un peu moins important et tout ça, il y a cette espèce d'échelle. Mais surtout, pour revenir sur ce que disait Fab, c'est il y a sûrement le système à revoir, mais il y a aussi encore cette espèce de chose de... bah, t'es différent, tu vas t'en prendre plein la gueule, quoi. Mmh. Cette peur de la différence, on préfère en fait compter la différence, enfin, ce qui nous diffère de quelqu'un, plutôt que d'essayer de voir un peu ce qui pourrait nous réunir, quoi. Enfin, ça, c'est un truc...
Et de voir aujourd'hui des politiques, justement, aller à fond dans le fait qu'il faut rester dans des schémas très établis, très carrés, où les garçons, c'est comme ça, les filles, c'est comme ça, enfin, tous les trucs de la manif pour tous et compagnie en ce moment, je sais pas s'ils se rendent compte de la violence que c'est pour les gamins qui sont dits, entre guillemets, hors normes. Oui. Mais j'ai horreur d'ailleurs de ce mot-là, mais enfin, on va l'employer des mots qu'ils emploient et qu'on emploie dans la presse. Et il y a un cas, alors c'est pas en France, c'est aux États-Unis. Il y a un gamin qui avait 11 ans, qui adorait, alors c'est les Little Poneys,
les petits poneys.
Voilà, et il était ultra fan, il avait toute la collection, enfin vraiment, c'est Hasbro qui fait ça d'ailleurs. Et il était, mais fan de chez fan, j'ai lu son histoire et j'ai lu aussi dans la presse américaine la suite de l'histoire, parce que je trouvais ça tellement dramatique. Et tous ses copains se foutaient de sa gueule parce que c'était un truc de fille, que c'était du coup un PD. Faut dire ça comme c'est. Et à 11 ans, hein, et personne n'a pris en charge ce gamin, alors qu'il s'en était plein à ses professeurs. Les seuls qui ont essayé de faire quelque chose, c'est les parents. Et à l'école, on lui disait exactement ce que tu disais, mais il faut t'intégrer aux autres, il faut faire du football américain, pourquoi t'aimes les petits poneys, mais qu'est-ce que tu nous fais chier? Ben, le gamin, à 11 ans, il s'est pendu. C'est-à-dire qu'il il s'est pendu en sautant au-dessus du lit à étage, qu'il partageait avec son frère. Il s'est pendu à 11 ans, il est entre la vie et la mort aujourd'hui. Et ben ça, moi je veux dire, c'est un cas, voilà, c'est ça, quand on commence à dire aux gens, vous n'avez pas le droit d'être différent, et on ne doit pas accepter la différence, ça donne ça. Faut arrêter de se mentir. Et moi, tous les gens qui manifestent aujourd'hui dans la rue et qui disent, il faut pas que les différences, faut surtout pas qu'il y ait de gens différents, faut pas qu'il y ait de gens qui aient envie de faire autre chose que ce pourquoi on est programmé par je ne sais quelle connerie, que ce soit Dieu ou je ne sais quoi. Et ben ces gens-là, ils sont en train juste de faire en sorte qu'il y ait des gamins qui se foutent en l'air, et ça m'horripile au plus haut point, et j'ai envie de baffer des gens.
Et puis, voilà, hein, moi je leur souhaite toute la merde possible et imaginable, mais juste. Non, mais voilà, hein, au bout d'un moment. Hein.
Oh non, ça va quoi.
Mais c'est surtout ces gens qui se rendent pas compte, c'est que leurs gamins seront aussi concernés un jour. Oui. C'est pas parce que leur gamin est né d'un papa, d'une maman avec mamie, papy, fraîche, enfin, toujours mariés, alors qu'ils arrêtent pas de s'en mettre plein la gueule, mais bien sûr, on reste mariés, faut pas divorcer. Qui seront pas différents un jour à un autre, parce que des moments ça peut être mais des conneries, ça peut être une différence physique, ça peut être une différence, voilà, comme tu le disais, il va préférer un hobby à un autre, ça va être le goût musical, ça va être le goût littéraire, mais tout et n'importe quoi. Moi là je parlais du collège-lycée, mais comme tu l'as dit, ça se retrouve aussi après en entreprise, ça se retrouve dans des cercles plus privés. Mais juste, voilà, qu'au bout d'un moment, mais rendez-vous compte, s'il vous plaît, de ce que vous êtes en train de créer, quoi, c'est ça.
C'est clair.
Voilà.
Je rajoute juste un petit truc aussi, ça commence aussi par les parents, qui, leurs petits garçons, au lieu de leur dire « mais arrête de pleurer, t'es pas une fille ben, ». C'est ouais. aussi ce genre de conneries-là, quoi. Et puis, sur la différence, à un moment donné, la différence, enfin, si vous voulez qu'on se ressemble tous comme des moutons, mais on va se faire chier, quoi. On va se faire chier à mort, quoi.
C'est pour ça qu'on se fait un peu chier en ce moment, d'ailleurs.
Ouais.
C'est ça, surtout, qu'on soit bien dégagé derrière les oreilles, avec le bras tendu, et là, ouais. ça irait bien. Mais tu rigoles ou quoi? Enfin, bref.
Ouais. Non, mais t'as raison, et sur un truc, moi, qui m'a vraiment fait foutu la trouille, mais ça peut paraître bête, parce qu'au début, j'en rigolais, puis d'un seul coup, je me suis rendu compte de la violence du truc. C'est l'affiche, vous avez vu, de la Manif pour tous, avec le garçon en chevalier et la fille en princesse ou je sais pas quoi. Et au début, je me marrais, je me disais, ils sont cons et tout. Mais en fait, je me rends compte que derrière ce truc-là, il y a un truc, mais d'une violence absolue et qui entraîne. Mais, enfin, je sais pas si ces gens se rendent compte que c'est même pas les enfants qui visent, c'est même pas que les enfants, c'est toute la société, tous les gens. Et qu'ils ont une certaine volonté de fasciste de vouloir mettre les gens en uniformité. Et personne réagit en face, c'est ça moi qui me tue. C'est pour ça que je le redis, il va falloir descendre dans la rue.
Ouais.
Donc voilà.
Je pense que c'est plus que nécessaire.
Puis ben, dernier petit mot, si on a des ados qui nous écoutent, hein, ouais. pourquoi pas, on aimerait bien ça. Courage à vous, et j'ai juste un mot, restez différents, vous verrez dans quelques... Aujourd'hui c'est dur, mais dans quelques années, vous serez bien contents de pas être... Parce que vous voyez la fille là, qui est populaire, qui vous fait chier tous les jours, la petite blonde, mais dans quelques années... Elle sera caissière chez Carrefour. Non, mais je vous assure. Et vous, parce que vous aurez écouté du métal et l'Uvel Baudelaire, eh ben vous serez mieux.
À la
content. Voilà.
Et heureusement, elle n'est pas caissière chez Leclerc.
Bah après,
non,
moi c'était pour Elmer Footbeat, oui, je l'ai référence de merde.
Nostalgie.
Pardon, désolé.
C'est moi qui l'ai compris celle-là.
Ah. Merci, Vanessa, merci.
Bon, allez, alors les vieux, on se met un petit morceau de musique.
Allez.
Attends, faut que je retrouve comment que ça fonctionne tout ce bordel. Hein.
Alors, normalement, t'appuies sur play.
Ouais, non, mais attends, c'est l'USB, hein, chérie, s'il te plaît.
Ouais, bah, fais comme ça.
Est-ce que ça veut ou pas? Ouais!
C'est toujours la causerie, vous êtes toujours sur Radio Canus 102.2 et on vient de s'écouter The Joy Formidable avec This Letter Is Ours.
Oh, c'était bien.
Ouais.
Encore. Remets-le.
Non.
Bon, d'accord. Bah,
bien,
donc,
bien, bien.
Donc, on notera qu'il y en a un qui n'aime pas du tout les titres qu'on choisit dans la causerie.
On ne dira pas lequel, voilà. Mais voilà.
Ah si, mais j'assume complètement. Hein. Alors là, vous pouvez y aller, hein, c'est pas grave. Hein.
Voilà. Eh ben, en parlant d'y aller, tu voulais nous...
Bah, je vais peut-être y aller, en
voilà,
fait.
Voilà, tu voulais nous faire une petite chronique.
Ouais, une petite chronique, en fait. Je voulais vous parler, en fait, d'un article qui est paru dans Charlie Hebdo de cette semaine, en fait, de Fabrice Nicolino. En fait, c'est un article qui revient sur le copinage, ou on pourrait peut-être dire la collaboration, on va dire, qui existe, en fait, entre les experts des instances internationales type OMS, etc., et les industriels, et particulièrement dans le domaine des pesticides dans les aliments. En fait, tout ça est parti d'une ONG qui s'appelle alors Pesticide Action Network, ok, ouais, je l'ai bien, hein. Et qui a publié en fait un rapport le 5 février dernier qui s'appelait, putain on continue dans les, Poisonous Injection, alors qui veut dire, oh ça va, hein, j'étais pas au Québec ou ni au Canada,
non,
mais j'ai quand même fait 4 ans d'anglais s'il te plaît, et qui s'appelle, qui veut dire une piqûre toxique en fait, et qui révèle en fait que 73% des experts qui bossent pour l'OMS ont des liens puissants avec l'industrie.
Non. Non, c'était prévu qu'on le fasse comme ça.
Ah ok, d'accord, donc vous foutez de ma gueule et vous défoncez ma chronique.
Non,
okay. Oh, ok, d'accord, non, y a pas de souci. Donc on passe de la musique de merde et on se fout de ma gueule. Alors, bon, je continue ou pas en fait?
J'ai
hésité,
vas-y,
à quitter cette causerie de manière complètement, enfin bon bref. Et vous m'énervez. J'en ai rien là. Donc... Oh non, tu retournes pas toi.
Donc ils ont des liens avec l'industrie, donc 73% des gens de l'OMS ont des liens avec l'industrie.
C'est ça, et c'est également le cas effectivement pour 5 des 6 auteurs du document en fait qui donne le cadre de la politique de l'OMS. Donc ça veut quand même dire qu'on est à 90% de personnes qui ont défini le cadre d'une institution mondiale qui bossent pour les industries.
Oui. Est-ce que tu sais, tu peux rappeler ce qu'est à quoi sert ce cadre? Enfin, tu le sais ou pas?
Ah non, vas-y.
Moi, je
vas-y,
le sais parce que je travaille un peu dans les trucs comme
oui,
ça.
Oui, dans les trucs comme ça.
Et en fait, le cadre de l'OMS, pour vous expliquer ce que c'est notamment la politique vaccinale mondiale, la politique de distribution des médicaments au niveau mondial. Et c'est chez qui on se fournit. C'est-à-dire qu'en fait, l'OMS, chaque année, fait des appels d'offres en disant bah voilà, on a besoin de tant de millions de doses de vaccins pour telle région du monde, de tant de millions de doses d'antirétroviraux pour telle région du monde. Et donc, bah voilà, on lance un appel et on va dire chez qui on se fournit. Et bah, vous vous doutez bien que si des 5 sur 6 ont un lien avec des labos ou des fournisseurs, ça doit vachement arranger les affaires. Enfin, je pense que ça fluidifie
que
pas
ça,
mal le
voilà,
truc.
Voilà, c'est ça. Ça évite de perdre du temps, bien
comme
évidemment.
Comme on disait à l'UIMM, ça fluidifie les choses.
C'est ça. Et alors bon, il n'y en a pas que pour l'OMS, hein, bien évidemment. Il y a aussi l'Autorité européenne de sécurité des aliments, dont que 52% des experts environ bah, ont des liens avec l'industrie... chimiques et toutes ces choses-là, donc c'est encore une fois, c'est toujours intéressant, hein. Et donc ça en fait, enfin moi ce que je me disais c'est que ça quand même, enfin ce qui ressort de l'article c'est que ça doit nous poser quand même des questions sur les politiques et les contraintes en fait qui sont imposées au final aux fabricants de pesticides quoi, parce qu'au final vu que une majorité des experts bossent pour eux, est-ce qu'ils ont intérêt à se tirer eux-mêmes une balle dans le pied? Je ne pense pas. Et alors, quand on sait que, bah, selon les chiffres officiels, le nombre de cancers ont quand même augmenté de 107,6% chez les hommes et 111,4% chez les femmes entre 80 et 2012, qu'est-ce qu'il y a, Emma? C'est mes chiffres qui te font rire?
Non, elle queen.
Ah, c'est la queenage de ma chaise? Bah oui, mes fesses sont lourdes. Et alors? Donc, en fait, bon, bah, quand même, on va reprendre les choses, hein, en 30 piges, en fait.
Juste quand même souligner que le chiffre d'augmentation des cancers, c'est en tenant compte de la politique de prévention et du fait qu'on arrive à les détecter plus tôt. Mmh. C'est-à-dire, c'est pas des chiffres parce qu'on en détecte plus et mieux, c'est bien le chiffre brut, c'est-à-dire vous reprenez, vous enlevez toutes les avancées technologiques qui permettent de les voir plus tôt et vous faites une moyenne. Et en fait, ces chiffres-là sont donnés à... constant, c'est-à-dire en oui, prenant les voilà. Oui. Donc c'est une augmentation assez énorme hein, quand même.
Bah quand même quoi. Enfin ouais. Et donc quand on sait aussi que nombre de pesticides, enfin les pesticides provoquent nombre de cancers, les dérèglements du système endocrinien, qui quand même ont des choses assez incroyables quand même qui se passent, et autres malformations congénitales. Et comme l'on dit, alors c'était ça aussi, c'est qu'il y a 1200 médecins en fait qui ont lancé un appel solennel pour demander l'interdiction des épandages aériens le 30 janvier. Donc eux aussi en fait on s'en tamponne complètement de ce qu'ils demandent, hein, parce que je pense qu'en 1200 médecins, alors bon c'est pas effectivement à l'échelle du monde, ça doit pas non plus représenter énormément.
C'est 1200 médecins à l'échelle de la France, c'était une pétition française, pas mondiale.
Ok.
Ouais, donc c'est assez énorme, hein, c'est... voilà.
Donc quand même. Et
non mais je précise parce que cette pétition-là justement, elle a été énormément décriée par ce qu'on a appelé les Claude Allègre Boys.
Ces gens
qui bossent autour de Claude Allègre depuis des années pour nier tout ce qui est. Et en fait, eux, c'est beaucoup notamment d'endocrinologues et de cancérologues qui disent que il y a des preuves irréfutables de liens entre l'épandage de matières toxiques et des maladies, notamment dans les écoles qui sont à côté des champs. Où on fait ces épandages, donc il faut les arrêter. Et c'est pas des gens qui sont alarmistes, c'est des gens qui constatent.
Ouais, comme Captain Constat.
Non, mais comme il le dit, ils sont même plus dans le terme d'être dans des lanceurs d'alerte. Eux, ils se considèrent comme des gens qui sont dans les faits. Donc c'est beaucoup plus grave, c'est-à-dire qu'ils disent pas on a peur que ça arrive, ils disent c'est déjà là en fait. Mm-hmm. Voilà.
Ok. Et quand on y ajoute une étude en fait qui a été aussi publiée en décembre par la revue Biomed Research International, dont les résultats nous disent que les pesticides en fait sont analysés de travers et qui pourraient être en fait 1000 fois plus toxiques que ce que prétendent les industriels. Donc en fait, je pense qu'il y a quand même un max de questions à se poser là-dessus parce que. Je pense qu'il faudrait en tirer un peu quand même quelques enseignements sur le fonctionnement de toutes ces structures officielles, OMS, EFSA, qui sont quand même censées nous protéger, en fait. Et sauf qu'on se voit que, en fait, non, quoi. Parce que, il faudrait peut-être que nous, on se pose des questions et qu'on a peut-être, comment dire? Ouais, il faut vraiment qu'on se pose des questions sur tous ces domaines-là. En fait, ça appartient pas qu'aux experts, ça appartient pas qu'à n'importe qui. Ces gens-là, ils décident de règles, ils décident de plein de choses qui nous concernent tous. Donc, à un moment donné, si on continue, comme d'habitude, à laisser l'économie aux économistes, la médecine aux médecins et je ne sais pas quoi à chaque expert, en fait, faut pas s'étonner que nos vies nous appartiennent jamais et que, sur un truc qui est aussi quand même sensible que la santé, je pense qu'on a quand même intérêt à fouiller un peu et à arrêter de voir ceux qui, justement, sont des lanceurs d'alerte et autres. Faut peut-être arrêter de les voir comme des tarés, des vieux hippies complètement trucs quoi. Donc après, moi je terminais juste. Alors ça c'est ma conclusion à moi, hein, mais c'est pas celle de Nicolino qui est dans l'article. Mais en tout cas, je vous conseille l'article. Moi, je le trouve vraiment intéressant. Et puis Nicolino, il a quand même fait pas mal de choses qui, à mon sens, sont plutôt intéressantes. Il a aussi fait un bouquin qui s'appelait Ils ont tué l'écologie.
Ouais, il en a fait un sur les pesticides en France aussi.
Aussi il a fait un truc sur la malbouffe, sur la viande aussi. Enfin, je pense que son boulot est plutôt intéressant. Moi, ce que j'y voyais, alors, on pourrait me dire si, peut-être que je me plante, hein, c'est que moi, là, j'y vois encore une fois aussi une guerre de classe. En fait, entre les puissants et les possédants, hein, donc les industriels, etc., qui s'organisent en plaçant leurs billes dans ces structures, leurs petits experts, etc., au détriment du bien commun, de la nature et de notre santé. Et donc, je vais la jouer révolutionnaire à mort, notre libération ne passera pas que par la destruction de l'État et du patronat, ça passera aussi par la destruction, la destitution de tous ces experts qui, en fait, ne sont pas des experts, ce sont juste des billes des industriels et des puissants qui sont là pour vendre leur merde. Et puis, alors après, j'ai pas tous les faits exactement, mais je me souviens qu'on parlait de tout ce qui est pesticides, etc., et engrais. En fait, au départ, c'est quand même partie des stocks qui nous restaient de l'épandage qu'on a fait.
Ça vient de la Seconde Guerre mondiale.
C'était la Seconde Guerre mondiale, et qu'il fallait trouver bah, un marché, quoi, pour quand même écouler toutes ces merdes des industriels. Et donc, on s'est dit, bah tiens, on va foutre ça dans nos champs. Donc, encore une fois, toutes ces choses-là ne sont pas du hasard, et c'est pas non plus, attention, une histoire des Illuminati ou de je ne sais qui. Ou de... Non, non, mais parce que.
Ouais, aussi... Si, c'est les reptiliens qui ont
fait ça. Ouais, c'est ça, les reptiliens ou le club Bilderberg ou je sais pas quoi. Non, non,
ça
c'est...
va pas.
C'est juste les riches, ils s'organisent pendant que nous, on continue de se foutre sur la gueule en se divisant justement bah, dès l'école, en fait, en se disant, bah toi t'es roux, toi t'es petit, toi t'es gros, toi t'es moche. Et que bah, c'est. Je pense qu'à partir de. Ça commence déjà là, et en fait, au fur et à mesure qu'on grandit, bah, on laisse toutes ces choses-là se faire, et on continue de se foutre sur la gueule pour rien, en attendant que les autres s'en foutent plein les poches.
Ouais, bah, si je peux ajouter un tout petit truc, je suis d'accord avec toi sur la conclusion du fait que les experts, de toute façon, c'est des gens autoproclamés, il n'y a pas de diplôme d'expert. Hein.
Oui.
Il suffit d'ailleurs de voir qu'un des gars qui est le plus écouté en économie aujourd'hui, qui est chauve et qui vient de BFM, là,
il n'a... Loi.
Ouais, c'est ça, c'est il ça. N'a aucun diplôme d'économie, il faut quand même le savoir, et en plus, il est nul en maths, donc vous imaginez quand même le truc, mais il est expert en économie.
Mais par contre, il bosse pour donc, la banque.
Mais voilà. Donc, non, mais je veux dire, c'est intéressant de voir qu'expert, ça veut rien dire. Et moi, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que on a aidé à faire en sorte que tout échappe à un contrôle extérieur. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, parce qu'à partir du moment où vous tuez la recherche publique, à partir du moment où vous n'avez plus de labos indépendants, à partir du moment où vous n'avez plus de chercheurs qui peuvent faire de la recherche fondamentale, c'est-à-dire aller chercher le cœur des causes, comme on dit, la recherche fondamentale, eh ben vous faites en sorte que l'industrie puisse faire ce qu'elle veut. Parce que aujourd'hui, il faut être très clair, si on voulait contrôler toutes les substances qui sortent de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie alimentaire, de l'industrie des pesticides, il faudrait qu'on quadruple le nombre de labos indépendants rien qu'en Europe, et qu'il faudrait qu'on multiplie par 10 le nombre de personnes qui sont employées dans ces labos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne se donne pas les moyens de protéger la population. Il faut être très clair là-dessus. Alors on met des règles, on dit mais vous inquiétez pas, ils les suivent, ils ont des carnets, ils doivent suivre des trucs. Je l'ai dit, je travaille dans une grande industrie. Quand on voit comment se passe un audit, c'est à mourir de rire. Hein. Moi personnellement, je tiens à vous dire que voilà, les règles, tant que c'est bien écrit sur le papier, tout se passe bien, quoi. Voilà. Et là, normalement, j'aurais dû virer demain, mais je l'ai dit quand même. Non, mais je veux dire, voilà, il faut arrêter de se mentir. Il n'y a pas du tout de recherche indépendante. Il n'y a pas du tout. On a enlevé tout, par exemple, on a enlevé tous les moyens des fraudes en France. Il n'y a quasiment plus de labos pour les fraudes. Donc, comment vous voulez qu'on puisse contrôler le taux de pesticides, par exemple, contenu dans ce qui est vendu sur les marchés ou ce qui est vendu dans les grandes surfaces, si vous n'avez pas de labo pour pouvoir savoir ce qu'il y a sur les salades, les fraises ou autres produits? Eh ben, le problème, il est là, c'est que tant qu'on tue la recherche publique, tant qu'on tue le collectif, finalement, eh ben, on obtient que c'est les capitalistes qui gagnent, quoi.
Ouais. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose, Emma?
Non, c'est bon.
Et peut-être que juste dire que tout ça, c'est politique.
Yes.
Donc, que ce soit de droite, que ce soit de gauche, vous inquiétez pas, ils nous feront tous la même. Donc, bientôt, on va vous appeler pour aller poser un truc dans un truc, là, qui s'appelle une urne. Eh bien, posez-vous des questions. Est-ce que ça sert réellement à quelque chose? Ça fait 30 piges, au final, qu'il y a plein de tous les côtés. On a eu la droite, la gauche, etc. Est-ce que votre sort a réellement changé, s'est réellement amélioré? Bref, allez, on passe à du son. Amputation. 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 Amputation.
Production. Computation.
Et ça grince. On vient de s'écouter Dismantle avec le titre Computation VIP. Ouais, ce soir c'est vraiment cours d'anglais. Je ferai mieux la semaine prochaine.
My tenor is rich.
Alors, on va terminer sur des brèves.
Ouais.
Eh ben, t'as peut-être...
Je commence alors.
Bah vas-y.
Alors, donc du coup, le 22 février, qui est un samedi, et qui est samedi prochain, à Lyon, on vous donne rendez-vous à 10h30 place Bellecour pour aller gueuler contre tous les grands projets inutiles type Notre-Dame-des-Landes, type OL Land, type Gaz de Schiste, TGV Lyon-Turin, enfin tout ce qui sert à pas grand-chose mais qu'on a envie de faire pour que Bouygues puisse s'enrichir et Vinci aussi.
Qui sert de capital.
Enfin voilà, et qui nous sert pas vraiment à nous. Donc c'est à 10h30 place Bellecour. Ensuite il y aura un pique-nique partagé super cool, méga bien, qu'il faudra être là parce qu'en plus il fera beau. Je dis ça comme ça mais j'en sais rien, c'est dans une semaine. À 14h c'est une déambulation dans la ville à pied, à vélo, à dos de chameau ou à dos de licorne, c'est comme vous aimez.
Ou sur le dos de votre grand-mère d'ailleurs.
Ou sur le dos de votre grand-mère,
c'est, ce que vous voulez, hein.
C'est un peu embêtant. Voilà. Et à 18h le soir il y a une super soirée festive, que ça va être trop bien, de la mort qui tue. Voilà.
Oh ouais. Ta manière de présenter, elle est pas chauve. Enfin bon, bref.
Bah, vous aimez pas le truc?
Bah si.
Je trouvais que ça donnait envie, non?
Bah ouais.
Ah ouais? Ah bah pas moi.
J'aurais essayé.
Je vais être un peu trop compliqué, ça doit être ça.
Non, je... non bah, c'est
et
pas grave.
Tu...
J'ai oublié de dire un truc?
Non, bah après si. Enfin, il y a aussi Louli la semaine prochaine, en fait, qui nous fera un retour sur, bah, sur la situation en Italie, en fait, parce que, ben... Oh. Vas-y, Emma, ramasse. Fais ta cuisine, tranquille.
Parce que Louli est en reportage international pour la causerie.
Yeah.
Et en ce moment, il est quelque part en Italie, infiltré au milieu des autochtones du pays. Et il va nous ramener des trucs, c'est ça?
Ouais.
Bah, c'est surtout qu'il va nous parler de la situation en Italie, qui est assez dramatique, où effectivement, il a pu participer à une manif aussi contre les violences policières. Et parce qu'il n'y a pas qu'en France, c'est un peu partout où justement tous ces petits soldats du capital, ils seront au-dessus du peuple en fait, et que ça sera international aussi, qu'il va falloir les désinguer, et que la situation, enfin la misère, etc., elle est aussi grandissante en Italie. Enfin, je pense qu'il nous fera un retour intéressant, effectivement. Et puis pour finir, il y avait aussi il y a une soirée samedi soir aussi, il y a un repas en fait à prix libre, un repas végétarien qui sera au 44 rue Burdeau, en fait c'est le local de la CNT, à partir de 19h, et en fait ce sera en soutien au Sans Toi, et c'est organisé par Tiens Bon la Pente. Donc allez-y parce que
ça va être sympa.
Oui, et que la solidarité c'est aussi par la bouffe, et puis ça vous permettra de rencontrer des gens, de discuter, et que on a tous le droit de faire des petites choses quand même.
C'est vrai.
Et puis je crois que c'est tout en news.
Ouais, en news c'est tout. Moi j'ai juste un teaser à faire. Amis auditeurs, attendez le mois de mai, il y aura une surprise, ça va vous plaire. Voilà, j'ai dit ça et j'ai rien dit.
C'est pas faux. mais on verra. Oh, bah, pour l'instant, ah bah, on est au mois de février.
C'est un teaser.
Ah ouais, là, c'est un teaser de la mort, quoi.
Et on va le faire régulièrement, comme ça. Ça va être vachement bien. Les gens, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi?
On fera même un décompte et tout.
Ouais, on cochera des croix.
On cochera des croix.
Et alors, si je veux cocher des croix, je fais ce que je veux. À la radio, ça rend rien, on s'en fiche.
Et ben, sinon, bah, si, il y a aussi les. Alors, c'est quand? Si, c'est la semaine prochaine. Il y a les copains de SMB qui étaient venus nous voir, qui sont en concert à Lyon, à la Movida, pour pas faire de publicité. On s'en fout, on le fait quand même.
C'est à 19h30 jeudi.
Ouais.
Ben voilà, ben c'est nickel.
T'es dit.
Jeudi soir, le 20.
Donc, si ça vous a plu à la radio, ça vous plaira encore plus en live dans un petit.
Un petit bar sympa.
Un petit bar. Ben voilà, je crois qu'on a fini pour la causerie de cette semaine. On rappelle peut-être le mail qui est toujours
lacauseriecanu@gmail.com.
C'est formidable tous ces trucs-là. Et bah, les blogs aussi, où vous retrouverez l'émission de ce soir et vous pouvez réécouter aussi les émissions précédentes, etc.
Ah, on a oublié un truc. À l'atelier d'Émilie, à Trévoux, il y a une dédicace samedi. Mais alors, on vous avoue qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Mais il paraît que c'est vachement sympa. C'est un gars qui fait des carnets de voyage, je crois, si je me souviens bien.
Ouais, c'est ça.
Mais je n'ai pas le nom du gars parce que je n'ai pas eu les infos entre-temps.
Moi non plus.
Mais Émilie, c'est une fille, c'est vachement sympa. Enfin, une femme vachement
artiste,
sympa.
Donc, très sympa, qui fait un super boulot.
Donc
qui...
voilà. Ouais. Et puis, on devient attaché un peu de presse de la ville de Trévoux.
Non,
je plaisante.
Non.
Je déconne, mais allez-y, c'est sympa. Voilà.
Toute indépendance, on dit ça.
Ouais. Donc,
parce que quand tu vois la chargée de la culture, j'ai pas envie d'aller à Trévoux.
Ça c'est fait.
Je parle juste de la responsable de la culture, je parle pas des habitants de Trévoux.
Non, ça, c'est bien fait. J'adore ça.
Ouais. Bah, faut pas déconner quand même. Le centre droit qui s'occupe de la culture, c'est comme si c'était le Vatican qui s'occupait des capotes et tout
bon,
ça. Quoi.
Bon, ça suffit, mets de la musique.
Ok, je m'arrête là alors. Bon, on se souhaite quand même une bonne semaine.
Oui, bonne semaine.
À tous ceux et à toutes celles qui bossent et qui vont aussi à l'école, à tous ces trucs chiants et obligatoires. Et puis, ben voilà, bonne semaine à tous.
Et à la musique.
Et... ouais, c'est ça, musique.
Allez, salut.
Ciao.
Je suis l'homme moderne. Au plateau télé. Génération micro-ondes et plats surgelés.
On va s'écouter, c'est Benjamin Paulin qui s'appelle L'homme moderne. Allez, bonne semaine. Existé. Ciao.
Je suis l'homme high-tech, discothèque, internet. Pas de bibliothèque comme en avaient mes ancêtres, ou peut-être pour la décoration du living avec d'authentiques objets d'art fabriqués en usine. J'aime cette vie urbaine. Les réparties à l'américaine, le câble, les chaînes, je suis l'homme western, en amas cellulaire, le porte-parole du néant, paumé sans son cellulaire. Je suis l'homme sans fil, relié par satellite. J'évolue sous un ciel bleu électrique, j'aime l'odeur de l'essence, les horizons cimentés, symétriques, supermarché, musique, électronique. Je suis l'homme pub, l'homme dernier cri, appartement insalubre, vêtements hors de prix. Un look industriel, des clones à chaque coin de rue fringués pareil. Un uniforme original reste quand même un uniforme. Je suis l'homme poupée Barbie, version barbu. Bien entretenu, si je prends soin de moi, c'est pas pour vivre centenaire. J'ai juste envie d'avoir l'air d'une affiche publicitaire. Je suis l'homme à tout faire, j'ai pas de vocation, pas de chemin. Je stream par intérim, prends les transports en commun. Le week-end, je vais en boîte, si on nuit en commun. Je suis l'homme personne, on a des points en commun. On a les mêmes appartes, on a les mêmes cafards, les mêmes grand-mères mourantes, on prend pas le temps d'aller voir. Les mêmes boulots à la chaîne, les mêmes défonces pour oublier les mêmes problèmes. Je suis juste l'homme moderne. Je suis l'homme moderne, posé là comme un meuble. Les mains oculaires d'une justice aveugle. Les trois dans mon immeuble. Un mammifère de trop. Un danger pour la planète. Un régal pour les asticots. Je suis l'homme voiture. Auto, toute option. L'air conditionné. L'air bague. Et même l'air con. Je pousse le son à fond. Baisse ma vitre. Persuadé d'avoir bon goût et que tout le monde aime ma musique. Je suis l'homme vite. Boom des années 80 qui s'approche de la trentaine. Qui sent vieux soudain. Je me souviens des génériques, des vieux dessins animés. Je connais par cœur tous les slogans des vieilles publicités. Betamax, cassette audio, baladeur. Je me suis senti à la pointe avec les premiers beepers. Je suis l'homme spectateur du temps qui passe, qui efface tout et qui détruit tout quoi que je fasse. Je suis l'homme moderne, l'avenir de mes parents, ces hommes des cavernes, aux principes étonnants. Luttant encore, s'indignant haut et fort, comme des dinosaures qui n'ont pas compris qu'ils étaient déjà morts. Je suis l'homme engagé, la rébellion déclinée en produits dérivés. Un peu artiste, un peu escroc, un peu confus, prisonnier d'une image qui ne le reflète plus. Je suis l'homme muscu, jogging, régime, club de gym, protéines et cure de L-carnitine. Tenté par le bouddhisme, la médecine parallèle, dont les bonnes résolutions finissent toutes par la poubelle. Je suis l'homme puzzle, en pièces détachées, le résultat de millions d'êtres et de millions d'années. Mes ancêtres étaient des guerriers, des grands bâtisseurs, pas moi, mais j'ai un portable 3G d'ailleurs. Le tout ton numéro, on s'appelle pour rien se dire. Envoie-moi des textos et des photos bien délire. Prends cette mini vidéo, tu vas voir, elle est fatale. Détends, y'a cette nana qui se fait déboîter par un cheval. Je suis l'homme de travail, j'ai besoin de vacances. Parqué sur un camping sale dans le sud de la France. Après 15 heures de bagnole, péage et embouteillage. Les HLM de bord de plage me cachent le paysage. Je suis l'homme dommage, l'homme désolé. L'homme pas de bol, pas de chance, moi je peux pas vous aider. Assis derrière son bureau, devant son ordinateur, finissant sa réussite en attendant qu'il soit l'heure. Je suis l'homme, l'homme cheminé, l'homme cigarette. Je suis l'homme déterminé, demain j'arrête. Et pour l'instant je suis qu'un smicard banal qui dépense toutes ses thunes dans un suicide légal. Je suis l'homme, je sais pas, ça m'est égal, je m'en fous. Je vote pas, la gauche, la droite, c'est la même chose partout. Je vais quand même pas perdre une heure pour l'avenir de ce pays. Par contre j'ai voté pour l'autre con à la Star Academy. Je suis l'homme, tout est permis. Je me dis que c'est pas de ma faute, je me dis que si c'est pas moi, ce sera juste quelqu'un d'autre. J'ai fait un paquet de saloperies dans ma vie, mais tu sais, j'ai toujours une excuse pour avoir la conscience en paix. Je suis l'homme des villes, l'individualiste, esprit léger, engagé dans un combat égoïste. Quand je regarde par la fenêtre, je vois pas de gens à l'extérieur. Je vois que mon reflet dans la glace et je me trouve beau d'ailleurs. Je suis l'homme mouton, celui à qui on a appris à aimer sa prison. Je pourrais m'évader, mais non, je le ferai pas. Je suis mon propre maton et j'ai peur de moi. Je m'ennuie, je suis l'homme blasé. Je m'ennuie comme un soldat en période de paix. En attendant de trouver une vraie raison d'exister, je fais comme tout le monde, j'allume la télé. Je suis l'homme paumé, sans réaction. J'ai pas d'esprit à part l'esprit de contradiction. Polémique à la con, avis interchangeable. Comment se faire remarquer quand on n'est pas remarquable? Descendant d'un colon, le subconscient honteux de toutes ces persécutions. Démagogue de gauche, le profil du mec bien, politiquement correct, mais qui n'en pense pas moins. Je suis l'homme doute, c'est ma seule certitude. Un visage perdu dans la multitude. Où sont passées toutes ces odeurs familières, tous ces visages rassurants, la sérénité d'hier. Je suis l'homme moderne, je voudrais dire que je t'aime, c'est tout. Je voudrais te serrer dans mes bras, mais tu me prendrais pour un fou. Je voudrais parler à cette petite fille qui joue dans le square, mais je veux pas passer pour un pervers. Alors je me barre, je peux pas sourire aux femmes. Y'a trop d'histoires de viol, porter le sac des vieilles dames. Y'a trop d'histoires de vol. J'ai peur de passer pour ce que je ne suis pas. Et puis, j'ai aussi un peu peur de ce que je suis. Rester soi-même, c'est important, il paraît. Mais comment rester soi-même quand on sait pas qui on est? Je fuis l'amour, je fuis la haine, je fuis les conflits. J'ai si peur de frôler la mort que je ne fais que frôler la vie.
et camionneuses de méchants goins. Et voilà qu'elles pleurent leur jeunesse et les violettes de Vivien. Parfois je crois.